Nous abordons ce matin, et puis demain matin, et après-demain matin, un thème très beau pour nos vies à l'école de Thérèse, comment traverser l'épreuve à l'école de Thérèse. Qu'est-ce que l'épreuve? Si vous ouvrez le dictionnaire, par exemple Robert, vous trouvez que « éprouver » c'est juger de la valeur d'une personne, éprouver la sainteté de Thérèse. Ou encore juger de la valeur d'une œuvre, éprouver la petite voix. Ou bien encore juger de la valeur d'une qualité, éprouver sa confiance. Éprouver la valeur d'une pensée, vient-elle de Dieu ? Donc, l'épreuve juge de la valeur. Et ce qui la caractérise, c'est ainsi, on ne le changera pas, elle est désagréable. Je reconnais l'épreuve parce qu'elle est désagréable, c'est une agression. C'est une agression cause de souffrance et d'angoisse. Donc, je n'aime pas l'épreuve. Et mon mouvement spontané, c'est d'éviter l'épreuve. Elle se reconnaît donc facilement. Je n'en ai pas envie. Je ne veux pas y entrer. Qu'est-ce que Thérèse a éprouvé? Et en regardant sa vie, en contemplant comment elle a agi, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, elle a éprouvé d'abord le malheur, la maladie, la mort. La maladie commence très tôt, elle a à peine 2 mois, que la voilà atteinte d'une entérite qui aurait très bien pu la tuer, comme cette entérite a tué plusieurs de ses frères et sœurs avant elle. Et à la fin de sa vie, à 24 ans, c'est la tuberculose qui l'emportera. La maladie, le deuil d'un être cher, sa maman, Zélie, Thérèse a 4 ans, le départ de sa seconde mère, Pauline, au Carmel, elle a 9 ans. La maladie mentale, ce qu'elle a appelé son étrange maladie à 10 ans, dont on sait maintenant qu'il s'agit d'un état dépressif de l'enfant. La maladie cérébrale de son père, Louis Martin, qui était taxé à l'époque de folie, de démence sénile. Donc le malheur, la maladie, la mort, c'est peut-être aussi une limite humaine inhabituelle. Et nous sommes nombreux à expérimenter cela, ce qu'on appelle une blessure du passé. Pour Thérèse, c'est l'expérience répétée d'un abandon maternel. Non volontaire, bien évidemment, de la part des personnes, mais qui est effectif pour elle. Elle perd sa maman, elle perd sa seconde maman. Et cela suscite en elle une angoisse de séparation. Autre limite, un trouble du caractère. Chez Thérèse, c'est son hypersensibilité qui va durer une bonne dizaine d'années, mais aussi une fragilité excessive dont elle parle souvent. J'étais faible, si faible, et dont on sait aujourd'hui, au moins entre 4 ans et demi et 14 ans, que c'était une faiblesse pré-dépressive. Donc le malheur, la maladie, la mort, une limite humaine inhabituelle, et enfin, troisièmement, le combat contre le mal, c'est-à-dire la tentation. La tentation se reconnaît à un signe particulier qui l'oppose à l'épreuve, c'est une impulsion agréable. Alors que l'épreuve est toujours désagréable, la tentation contient un plaisir. Or, dans le combat spirituel, nous sommes invités à résister à ce plaisir. Or, résister à un plaisir, c'est-à-dire renoncer à un plaisir, c'est consentir à souffrir. Dans le combat spirituel, je suis invité à résister à la tentation, donc souffrir en renonçant à un plaisir, et à entrer dans l'épreuve, alors que spontanément, je recule et je cherche à l'éviter. Donc il s'agit de résister à la tentation et d'entrer dans l'épreuve en espérant le secours de Dieu. Thérèse va vivre moult tentations, par exemple le découragement. Sa première résolution lors de sa première communion, c'est « je ne me découragerai jamais ». Ce qui signifie que sa grande tentation, c'est le découragement. Merci Thérèse. Moi là, tu es bien proche de nous. Et c'est ce combat contre le découragement qui va l'amener à compter sur Dieu. Je me décourage parce que je m'appuie sur moi-même. Si je m'appuie sur Dieu, je ne me décourage pas, j'espère. Le combat contre la peur, l'angoisse, c'est le combat de toute la vie de Thérèse. Et elle va développer la confiance. Le combat contre l'amour-propre et la centration sur soi. Thérèse va y opposer l'humilité. Elle va nous apprendre à descendre à nos propres yeux. Elle va nous apprendre la petite voix. Les besoins affectifs. Thérèse avait besoin d'une mère, d'un père, de sœurs, de frères. Et elle va apprendre à vivre d'abord et avant tout pour Jésus seul, tout en aimant profondément tous les membres de sa famille et tous ceux qui l'entourent. Et enfin, un des grands combats de la fin de sa vie, c'est la tentation contre la foi, c'est-à-dire le doute. Le doute par rapport à l'existence d'un ciel, du ciel. Elle va y opposer son credo, le credo. Donc ce matin, je vous propose d'aborder l'épreuve de la mort chez Thérèse et son combat pour vivre, parce que nous tous nous sommes marqués d'une manière ou d'une autre par cette mort et ce combat pour vivre. Demain, nous verrons l'épreuve de sa fragilité humaine, car nous tous ici, nous sommes marqués par la fragilité. Et dans 2 jours, nous verrons ses tentations contre la foi, parce que nous aussi, nous vivons ces tentations-là dans un monde qui dit que Dieu est mort. Donc l'épreuve de la mort dans la vie de Thérèse et son combat pour vivre. C'est vrai qu'elle est particulièrement marquée par ce combat dans les 5 ans qui précèdent sa naissance, meurent 2 petits garçons, nommés Joseph, l'un à 5 mois, l'autre à 8 mois. Puis une petite Hélène âgée de 5 ans et demi. Et la même année, on est donc en 1870, 3 ans avant la naissance de Thérèse, meurt une petite Thérèse de 2 mois. Et donc notre chère Thérèse portera ce nom-là. Ces circonstances tragiques, 4 enfants morts, créent un contexte familial de souffrance, on peut dire même de morbidité, d'autant que 3 autres deuils se rajoutent, particulièrement pour Zélie, ses parents, Jeanne et Isidore Guérin, et son beau-père, Louis Martin. Donc 7 deuils en 11 ans, juste avant la naissance de Thérèse. Et surtout, 4 enfants. Eh bien, ce sont ses 4 petits frères et sœurs qui vont aider Thérèse à sortir à l'âge de 13 ans, d'une auto-accusation abusive, ce qu'on appelle la maladie des scrupules, liée au sentiment de culpabilité. Très marqué chez Thérèse, lié à cette angoisse de séparation et à cette expérience d'abandon, pour la première fois à l'âge de 13 ans et d'une façon spectaculaire qui nous enseigne, Thérèse va œuvrer dans le sens de la petitesse. comme tout enfant, quand elle avait 8-9 ans, elle rêvait d'être une grande, c'est-à-dire d'être une sainte, mais pas une petite sainte, une grande sainte comme Jeanne d'Arc. Et voilà que donc, 5 ans plus tard, au travers de son intimité avec Jésus, elle va découvrir que la grandeur n'est pas dans la taille montée toujours plus haut. La grandeur, elle est dans la volonté de Dieu accomplie paisiblement, jour après jour, quitte à être cachée, quitte à être petit. Donc elle va œuvrer consciemment dans le sens de cette petitesse, elle va exploiter sa fragilité. Prenez une famille, 5 enfants, le plus petit, qui ne sait pas marcher encore, c'est donc bien de ce petit-là que maman, papa vont prendre soin. D'abord, c'est ça qu'elle va comprendre. Si je deviens petite, si je reste petite, si je le deviens de plus en plus, je vais attirer le secours désiré. Et donc elle se présente devant Dieu avec l'intercession de ses tout petits frères et sœurs qui sont morts, donc souvenez-vous, à 5 mois, 8 mois, 5 ans et demi et 2 mois. Et elle implore leur intercession. C'est le 15 octobre 1886, jour de sa fête. Je compris que si j'étais aimé sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Donc pour nous, vous voyez, cet événement est capital. C'est la première fois que Thérèse œuvre dans le sens de la petitesse, se servir de cette petitesse pour attirer la compassion et l'amour de Dieu sur elle. Et nous sommes invités à faire pareil. Deuxièmement, deuxième type d'épreuve, dès les premiers jours de son existence, Thérèse est agressée par la proximité de la mort, tout simplement parce que Zélie ne réussit pas à l'alimenter. Zélie, éprouvée par la mort de 4 enfants, avec un surcroît de travail, étant en plus probablement déjà atteinte d'un cancer du sein qui commence à évoluer, eh bien sa maman n'a plus assez de lait pour l'alimenter, au point que Thérèse refuse le sein et qu'elle préfère le biberon. Alors, pour le pédiatre que je suis, je frémis quand j'entends que c'est du lait entier coupé d'eau panée, c'est-à-dire de pain et d'œuf. Un enfant nouveau-né qui boit du lait entier avec de l'œuf. Bien, ça entraîne une intolérance digestive et une entérite. Au point que, 2 mois plus tard, Thérèse est à l'article de la mort. Zélie écrit « Je suis bien angoissée, cette pauvre petite souffre horriblement, cela fend le cœur de la voir. » Thérèse est dénutrie, Thérèse est en train de mourir de faim. Parce que sa maman ne peut pas, malgré tout son amour, lui donner la vie et le lait maternisé n'existait pas à l'époque. La seule façon de la sauver, il fallait trouver une nourrice. Donc pour Thérèse, c'est un double choc physique. Quand vous jeûnez un peu, vous voyez la conséquence que ça a sur nous. Donc un bébé, un nouveau-né qui n'a pas de quoi manger, ressent une faiblesse, une sensation de faim, avec en plus une entérite, si vous avez déjà eu la colite, hein, ou une gastro-entérite, vous savez comme c'est désagréable, puis ça fait très mal au ventre, donc des douleurs abdominales extrêmement violentes. Et elle est là, à l'approche de la mort. Oui, c'est une expérience fondatrice dans la vie de Thérèse. Elle est sauvée in extremis par Rose Taillé, la nourrice, qui va la prendre pendant 1 an. Ce combat pour vivre, vous voyez, ne quittera jamais plus Thérèse. Il faudra en découdre toute sa vie avec la mort et avec la souffrance causée par la séparation. Eh bien, voilà l'épreuve. Et quel fruit en tire-t-elle? Elle n'en tire pas de fruit conscient, elle est trop petite. Mais on peut constater que cette année décisive à Sémalais en pleine campagne va développer ses sens et stimuler son imagination. Elle a puisé vraisemblablement dans cette rencontre initiale si forte avec la nature, puisque sa nourrice était fermière. Son amour de la nature, sa réceptivité très, très sensorielle, son sens du réel. Et les savants, les médecins, comme le docteur Guéral, affirment que des enfants qui vivent cette expérience sont plus sensibles et par la suite supportent moins bien que les autres les frustrations affectives. Donc Thérèse est devenue effectivement sensible, hypersensible. Et donc tout événement de frustration affective, donc de séparation, va la percuter plus violemment qu'un autre enfant. Troisième épreuve, à 4 ans, elle perd sa maman. Thérèse est mise à l'écart sans en être informée. Elle devine bien qu'il se passe quelque chose d'anormal. Je regardais, j'écoutais en silence. Je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Elle est placée avec sa sœur Céline chez Madame Le Riche et elle écrit « Nous étions comme de pauvres exilés ». Voilà le mot qui commence à apparaître, exilé, l'exil de la terre. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Et elle ressent cette mise à part comme un abandon. Sainte Zélie meurt le 28 août 1877, il est 0h30. Thérèse dort. On ne lui a rien dit. On lui annonce donc à son réveil au petit matin. Papa me prit dans ses bras en me disant « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Il ne lui demande pas si elle veut bien. Certes, elle est petite, mais quand même. Donc, sans préparation aucune, il l'emmène. Et moi, sans rien dire, j'approchai mes lèvres du front de ma mère chérie. Thérèse ne dit pas plus, mais quand on connaît sa sensibilité, elle dit derrière les mots, un front glacé, puisque le décès a eu lieu depuis plus de 6 heures. Oui, imaginez le choc pour une petite si sensible et les émotions violentes qui montent et qui ne peuvent pas s'évacuer. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Eh bien, cela, c'est inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, elle le dit très clairement, son caractère change brutalement. La voilà qui devient hypersensible, une grande faiblesse, une timidité. Et c'est un grand signe d'alerte de la dépression chez l'enfant. Changement brutal du caractère à la suite d'un événement de séparation ou de décès. Donc Thérèse porte une cruelle blessure d'abandon maternel qu'elle appellera elle-même son vide immense. Dans ce vide immense, il y a une douleur affective. Il y a une angoisse de séparation. Il y a une tristesse, un sentiment de culpabilité que l'on connaît bien maintenant en médecine, dans le syndrome qu'on appelle anxiété, trouble anxiété de séparation. La grande question qui va habiter le cœur de Thérèse, c'est « Suis-je aimé ?» Elle raconte que le dimanche soir avait une teinte mélancolique. Elle était triste parce que la famille n'était plus au complet. Je comprenais qu'au ciel seulement, la joie serait sans nuages. Cinq ans plus tard, quatrième épreuve. Durant l'année 1882, Thérèse entend par hasard Pauline, sa seconde maman, parler avec Marie de son entrée prochaine au Carmel. Thérèse n'avait que 9 ans et demi. et sa sœur lui avait promis imprudemment de l'attendre. Mais à nouveau, vous voyez, comme au moment de la mort de sa maman, Thérèse n'est pas prévenue. On l'oublie. Je comprenais que Pauline allait me quitter. J'allais perdre ma seconde mère. Comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur? Si j'avais appris tout doucement son départ, je n'aurais peut-être pas autant souffert. Ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. En un instant, je compris ce qu'était la vie. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vue si triste. Mais elle m'apparut dans toute sa réalité, je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. Mon âme était inondée de tristesse. Vous voyez, une des grandes qualités de Thérèse, c'est d'être très proche de la vérité et de la réalité de ce qu'elle vit dans son cœur. Elle le dit. Et elle va dire aussi simplement cette réalité-là qu'on connaît bien, que aussi son attitude spirituelle. Donc sa vie va toujours avoir un goût d'exil. À l'évidence, en Thérèse, il y a un vrai désir de vivre, il y a une volonté d'aimer la vie, mais il y a un poids, il y a une lourdeur, il y a une difficulté à vivre. Un douloureux sentiment d'exil, parfois même, elle le dit, un certain dégoût de la vie. Cette expérience humaine précoce ne lui a jamais ôté sa joie profonde, mais lui a donné une certaine gravité. Peut-être vous reconnaissez-vous, si vous-même vous avez vécu des confrontations violentes avec la mort ou avec la séparation, l'abandon. Donc le choc est brutal, tristesse, souffrance, angoisse. Voilà ce qu'elle appelle l'exil de la terre. Le dimanche soir, je pensais qu'il faudrait recommencer la vie, travailler, apprendre des leçons. Et mon cœur sentait l'exil de la terre. Je soupirais après le repos éternel du ciel. Oui, cette difficulté à vivre éveille l'esprit d'un médecin, mais cet enfant est marqué par une blessure d'abandon, une angoisse de séparation, attention à la dépression. Comment Thérèse traverse-t-elle cette épreuve et que nous apprend-elle? Je vous lis par exemple un extrait d'une lettre à Céline, elle a 15 ans, elle est au Carmel. La vie, souvent, et pesante. Quelle amertume. Oui, la vie coûte. Il est pénible de commencer une journée de labeur. Si encore on sentait Jésus, oh, on ferait bien tout pour lui. Mais non, il paraît à 1000 lieues. Nous sommes seuls avec nous-mêmes. Oh, l'ennuyeuse compagnie quand Jésus n'est pas là. Il ne voit donc pas notre angoisse, le poids qui nous oppresse. Où est-il? Pourquoi ne vient-il pas nous consoler? Vous voyez, elle a 15 ans. Elle est vraiment au ras de la réalité sensible, psychologique, de son âme. Mais écoutez la suite. Et c'est important pour nous. Mais quelle douceur! Que fait-il donc ce doux ami? Il n'est pas loin. Il est là tout près, qui nous regarde, qui mendie cette tristesse, cette agonie. Il en a besoin pour les âmes, pour notre âme. Il veut nous donner une si belle récompense, ses ambitions pour nous sont si grandes. Mais, comment dira-t-il, à mon tour? Si le nôtre n'est venu, si nous ne lui avons rien donné, hélas, il lui en coûte de nous voir dans les tristesses. Mais il sait que c'est l'unique moyen de nous préparer à le connaître comme il se connaît et à devenir des dieux nous-mêmes. Oh, quelle destinée que notre âme est grande! Jésus se cache, mais en versant des larmes, on essuie les siennes. Et la Sainte Vierge sourit, pauvre mère, elle a eu tant de peine à cause de nous. Il est juste que nous la consolions un peu en pleurant et souffrant avec elle. Vous voyez, nous nous retrouvons bien dans le premier aspect, plus difficilement dans le second, et c'est là qu'elle nous enseigne. C'est là que nous sommes invités à aller. Vivre en communion avec Jésus, avec la passion de Jésus. Il faudra de nombreuses années à Thérèse pour véritablement retrouver la vraie joie. En septembre 1897, donc le dernier mois de sa vie, elle répond à sa sœur Marie de la Trinité, à sœur Marie de la Trinité. La vie n'est pas triste, elle est au contraire très gaie. Si vous disiez « l'exil est triste », je vous comprendrais. Mais on fait une erreur en donnant le nom de vie à ce qui doit finir. Ce n'est qu'aux choses du ciel, à ce qui ne doit jamais mourir, qu'on doit donner ce vrai nom. Et à ce titre, la vie n'est pas triste, mais gaie, très gaie. Donc Thérèse distingue de bien l'exil, c'est la vie qui passe. Avec la vraie vie, c'est le royaume de Dieu. Et cette vraie vie, c'est la vie éternelle, déjà commencée, que Thérèse va chercher à vivre de plus en plus, parce que cette vie-là ne passe pas. Et cette vie éternelle est centrée par un mot qui l'habitera tout au long de sa vie, l'amour. Aimer. Aimer d'une manière désintéressée. Donc, par l'exemple de sa vie, vous voyez, Thérèse démontre qu'on ne guérit pas toujours des blessures les plus profondes. Quand Thérèse parle de sa faiblesse, vous comprenez que c'est bien effectif. Elle est probablement plus faible que chacun d'entre nous ici. La souffrance de l'exil habitait son cœur, mais elle a appris à lui donner un sens fécond. Et c'est ça qu'elle nous apprend. Si je peux guérir de certaines réactions comme l'agressivité, la tristesse, le découragement, la culpabilité. Par contre, il est une part de souffrance, d'angoisse de solitude, oui, d'angoisse d'abandon, qui persiste habituellement tout en changeant de coloration. Car dans ce silence intérieur où j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, ma foi me dit qu'il est là. Et si je confesse qu'il est là, eh bien, cette souffrance va devenir paisible. Et une souffrance paisible, dit le Saint Curé d'Ars, n'est plus une souffrance. Mon angoisse d'abandon va être habitée d'une présence maternelle, Marie, d'une présence fraternelle, Jésus, d'une présence paternelle, notre Père. Donc tous ces sentiments que je viens de vous citer, et particulièrement la souffrance et l'angoisse d'abandon, participent à une fragilité, comme une cicatrice. Et cette cicatrice, cette blessure de Thérèse, ce vide immense, c'est la place de Jésus. C'est le lieu par excellence où elle expérimente la puissance de Dieu dans sa faiblesse, contre les forces de mort et de ténèbres. C'est ce vide immense qui va faire d'elle l'apôtre de la confiance et de l'abandon. Car face à l'angoisse de séparation, la souffrance, le découragement, elle va y opposer sans cesse, avec courage, cette foi qui espère, qui est la confiance, et cet abandon qui est le fruit de l'amour. Je terminerai avec une autre épreuve. Je n'ai pas l'ambition de vous parler de toutes les épreuves de Thérèse. La maladie mentale de son père et sa mort. Entre 1887, Thérèse a 14 ans, et 1894, Thérèse a 21 ans. Donc pendant 7 ans, Saint Louis Martin va souffrir d'une paralysie vasculaire cérébrale qui va obscurcir son intelligence et faire de lui un malade mental. À ma connaissance, il est le premier malade mental canonisé. Or, ce fut pour Thérèse l'épreuve peut-être la plus terrible avec sa dernière agonie. Elle dit « l'épreuve a crié ». Ça commence donc par une attaque de paralysie, puis par une atteinte des facultés intellectuelles, au point qu'au bout d'un an, Louis disparaît un beau jour. On ne sait plus où il est. Et on le retrouve 4 jours plus tard au Havre. Mais c'est surtout le 12 février 1889. Son papa, Louis Martin, perdit le contrôle de lui-même. Dans son imagination, il voyait des choses épouvantables, des carnages, des batailles. Il entendait le canon et le tambour, parce qu'il avait fait la guerre de 1870. Aussi, il prit son revolver et voulut le porter sur lui en cas de danger, en présence de Céline et de Léonie, qui étaient toujours au Buissonnet. La situation devenant dramatique, on appela d'urgence l'oncle Guérin, qui, pour éviter le pire, prit soin de faire désarmer son beau-frère et décida sans délai son internement à l'hôpital de Caen. Je ne savais pas que le 12 février, un mois après ma prise d'habit, mon père, notre père chéri, boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. À ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Voyez, représentons-nous bien la noblesse, la beauté de Louis Martin, qui était appelé le Saint-Joseph du Carmel, de Lisieux. Sa maladie qui cause la honte de toute la famille. Si on prononçait son nom, c'était tout bas, comme celui d'un homme presque déshonoré. Il est quasiment impossible de communiquer avec Louis Martin, et le silence va se faire de plus en plus autour de ce nom vénéré de celui que nous chérissions. Des personnes peu délicates, écrit une de ses sœurs, dirent devant Thérèse que l'entrée de ses filles au Carmel, et tout particulièrement la plus jeune, avait causé ces accidents. On a même énoncé la possible origine syphilitique de ce trouble. Et tout cela courait dans la ville de Lisieux. Le docteur Cadéo, dans les années 1970, a réfuté ses arguments quant à la responsabilité des filles Martin dans la maladie de leur père et quant à l'origine prétendument syphilitique de cette maladie. Comment Thérèse va traverser cette épreuve et surtout, que nous apprend-elle? On peut difficilement saisir, comprendre, à moins de l'avoir vécu nous-mêmes, une telle épreuve. Pendant plus d'un an, les noms de père et de papa n'apparaissent plus que rarement dans sa correspondance. Et quand on sait le lien étonnamment puissant entre son roi et la petite reine, comme Thérèse et Louis Martin s'appelaient, on peut saisir combien c'est une épreuve dramatique dans son cœur. La tristesse l'envahit par instant. Elle écrit « Tout semble nous abandonner ». Mais en même temps, c'est toujours cette espèce d'instinct surnaturel de Thérèse. Elle cherche la porte de sortie. Et la porte de sortie d'une telle épreuve, c'est la personne du Père éternel. Elle va chercher son papa caché dans le visage de Jésus crucifié et dans la personne de notre Père. de ce seul Père auquel elle puisse dire véritablement « Notre Père ». Ah, quelle est consolante cette parole! Quel horizon infini elle ouvre à nos yeux! Maintenant, nous sommes orphelines, mais nous pouvons dire avec amour « Notre Père qui es aux cieux ». Oui, il nous reste l'unique tout de nos âmes. Et dans une de ses poésies, elle écrit « Mon ciel » et de rester toujours en sa présence, de l'appeler « Mon Père » et d'être son enfant. De rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Voilà donc une première piste qu'elle nous offre. Dieu est-il mon Père? Et suis-je son enfant chéri? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Deuxième trésor que Thérèse nous donne, elle avait choisi un mois avant ce fameux 12 février, elle avait choisi d'associer à son nom celui de la Sainte Face. Elle s'appelait Thérèse de l'Enfant Jésus. Et voilà que pour la première fois, un mois avant, elle signe Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Elle venait donc de découvrir cette contemplation du visage de Jésus. Je ne veux connaître que Jésus et Jésus crucifié, ressuscité, dit saint Paul. Donc elle va rapprocher l'épreuve de son papa avec la passion de Jésus. Et découvrir aussi, ce sera dans l'année qui suit, le serviteur souffrant d'Isaïe. Comme, écrit-elle, la face adorable de Jésus, qui fut voilée pendant la Passion, ainsi la face de son fidèle serviteur, devait être voilée au jour de ses douleurs. Ces paroles d'Isaïe, il est sans éclat, sans beauté. On fait le fond de toute ma piété. Regarde sa face adorable. Nous avons, nous, le suaire de Turin. Et ce visage si beau, les yeux baissés. Regarde ses yeux éteints et baissés. Regarde ses plaies. Regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il nous aime. C'est-à-dire, là, je verrai comme il m'aime. Mais ce qu'elle découvre là se fait dans les larmes. Cette éclipse du soleil paternel s'accompagne d'une sorte d'éclipse intérieure, comme souvent ce que nous avons vécu avec papa et maman sensiblement dans notre passé et dans notre enfance a un impact dans notre relation à Dieu, car Dieu est père, est frère, est époux, est homme. La tristesse donc l'envahit et elle se demande si elle est vraiment aimée de Dieu. Alors elle reporte ses aspirations vers le ciel, vous voyez, dans ce comportement quasi instinctif chez Thérèse, quand c'est difficile ici-bas, j'ai une espérance. Oui, mais même le ciel commence à se dérober, semble-t-il. Le sol manque sous ses pas. Existe-t-il seulement un ciel ? Ce sont les premières touches d'une purification passive de la foi qu'elle connaîtra à la fin de sa vie. Ça dure donc 7 ans. Et quand Louis Martin naît au ciel le 29 juillet 1894, elle a 21 ans, elle dit « Je le retrouve. Après 6 ans d'absence, je le sens autour de moi, me regardant et me protégeant. » Pendant toutes ces années, Thérèse dit humblement, véritablement, qu'elle se met à l'épreuve chaque matin sans joie. Quand elle dit sans joie, ça veut dire sans joie sentie, expérimentée. Sans joie, sans courage, sans force. Et tout cela, affirme-t-elle, c'est important pour nous, lui facilite l'entreprise, car elle veut travailler par amour. Et oui, quand j'ai une joie sentie, une consolation, quand j'ai du courage et de la force, eh bien c'est le Seigneur qui me donne ça. Et je cours, c'est facile. Mais c'est Dieu qui m'aime. J'ai parfois besoin de le sentir. Mais ce n'est pas moi qui l'aime, puisqu'il n'arrête pas de me donner des douceurs. Et donc, ce que veut Thérèse, c'est que ce soit elle qui l'aime. Donc, elle va nous expliquer comment faire. C'est quand il n'y a pas de joie sentie, quand il n'y a pas de courage, quand il n'y a pas de force. On fait comment ? Eh bien, voilà. Elle nous donne 4 armes. Et je terminerai avec ça. Sa première arme, c'est l'amour. Tout par amour de Jésus. Et dans l'épreuve, lui prouver mon amour. Comment est-ce que je prouve l'amour ? C'est quand ça me coûte. Vous voyez, on associe à l'amour la souffrance et on trouve que les saints ne parlent que de souffrance. C'est vrai que Thérèse parle beaucoup de souffrance, c'est aussi un langage de l'époque. Eh bien, vous changez le mot souffrance, vous mettez le mot amour. Quand elle parle de souffrance, elle parle d'amour. Quand elle dit souffrir pour Jésus, c'est prouver mon amour pour Jésus. Et je ne prouve pas mon amour pour Jésus quand tout est facile, quand j'ai plein de courage, plein de force et une joie débordante. Je ne prouve pas mon amour à mon conjoint quand tout est facile. Bien évidemment, l'amour suscite la joie. Et la fête de l'amour est vécue dans la joie. Mais l'amour se prouve dans la traversée de la souffrance. Et c'est ainsi que Jésus, que Dieu, nous a prouvé son amour. Eh bien, nous, à notre tour, voyez, c'est ce que nous apprend bien Thérèse. L'amour désintéressé ne se prouve pas dans la jouissance, la consolation, mais dans la souffrance. Et là, il n'y a pas d'autre chemin. C'est la croix. Aussi, Thérèse décide d'aimer Jésus, de lui faire plaisir dans des petites choses à sa portée. Elle décide de le retrouver à Gethsémanie, au calvaire. Elle décide d'unir sa peine à la sienne. Elle la lui dépose, elle la lui offre, et elle s'efforce de ne s'occuper que de lui. Parce que lui, il est en train de souffrir à Gethsémanie. Il est en train de souffrir vers sa marche au calvaire. Sûr que Jésus s'occupera d'elle. Elle comprend que Jésus a soif. Son grand cri sur la croix, Mère Thérésa le comprendra aussi, c'est d'être aimé. Pierre, m'aimes-tu véritablement plus que ceci? Dieu demande, désire que nous l'aimions plus que tout, car il s'est donné tout entier. Et qu'il veut nous assomptionner, il veut nous faire monter jusqu'à lui, il veut nous diviniser. Donc Jésus a soif lui aussi d'être aimé, de trouver des frères qui acceptent de rester auprès de lui dans son œuvre de rédemption. Et Thérèse nous invite à rester avec elle, avec Jésus, sur ce chemin quand nous sommes dans l'épreuve. Donc cette joie non sentie, qui finit par rayonner d'une façon impressionnante à la fin de la vie de Thérèse, vient de ce qu'elle aime Jésus dans et malgré la souffrance. Car quand je souffre, je suis de mauvaise humeur. Quand je souffre, je suis énervé, agacé. Ben, que j'apprenne à aimer, à mettre mes pas dans ceux de Jésus, à m'occuper de la peine de Jésus. C'est donc ce qu'elle appelle souffrir pour Jésus. C'est sa première arme, vous voyez. Aimer d'une façon désintéressée, faire plaisir à Jésus, le consoler. Deuxième arme, la paix. C'est là un beau secret de Thérèse. Elle ne cherche pas la joie sentie, hein, la consolation. Elle n'a pas de courage, ben elle n'a pas de courage, elle n'a pas de force. Okay. Elle cherche la paix, par contre. Elle veut la paix dans son cœur. Car la paix rend la souffrance douce. Une souffrance paisible n'est plus une souffrance. Elle s'obtient cette paix en voulant ce que Dieu veut. C'est-à-dire en consentant à la volonté de Dieu dans l'épreuve et en aimant Jésus. Il faut bien comprendre clairement que quand le malheur, la maladie, le mal, la mort frappe à notre porte, c'est le mal qui frappe. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas la cause de ce qui nous arrive. Le but du mal, c'est de nous désespérer, c'est de nous amener à mal agir, c'est de nous amener à nous couper de Dieu, c'est de nous amener à désigner Dieu comme responsable de ce mal. Dieu n'est pas dans la cause du mal, mais quand le mal frappe à notre porte, Dieu est là pour vivre avec nous et vaincre ce mal. C'est-à-dire faire que le mal ne tire pas de nous de la haine ou du désespoir, mais de l'amour, du pardon, du don de nous-mêmes, une union à Jésus plus grande encore. Qui dit paix ne dit pas joie, ou du moins joie sentie. Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut. Il faut ressembler à Jésus. Voilà, s'attacher à Jésus et s'attacher à sa volonté. Dieu ne veut pas le mal dans le sens qu'il en serait la cause, mais le mal étant là, lié à la liberté des créatures, eh bien Dieu est là avec nous pour combattre ce mal et le vaincre. Jésus est là pour, à travers sa passion, sa mort et sa résurrection, vaincre ce mal, cette passion, cette mort. Par sa résurrection. La troisième arme, associée à l'amour et à la paix, c'est l'oubli de soi. Il ne faut pas oublier que Jésus est tout. Il faut perdre ton petit rien, c'est-à-dire perdre le petit que je suis, et ne plus penser qu'à ce tout. Uniquement aimable, ne pas désirer voir le fruit de tes efforts, Jésus se plaît à garder pour lui seul ces petits riens qui le consolent. Voilà, je fais des efforts pour consoler Dieu et non pas pour recevoir une consolation. Je suis dans le véritable amour alors. Quand on se voit si misérable, on ne veut plus se considérer et on ne regarde que l'unique bien-aimé. Voilà, vous savez tout comme moi que quand on est dans l'épreuve, on a envie de se plaindre. On s'apitoie sur soi. On se centre sur soi. Bien, l'invitation, justement, c'est de se centrer sur Jésus. C'est de le plaindre. C'est de s'apitoyer sur lui. Et lui s'apitoiera sur moi. Et lui me consolera en son temps et à sa manière. Mais Thérèse nous dit que si elle se décentre d'elle-même, si elle s'oublie, elle ne réclame qu'une seule chose, outre la paix dont je vous ai parlé. S'oublier, cela veut dire « je veux être regardé par Jésus ». C'est ton amour, Jésus, que je réclame. Elle ne désire qu'un regard, un seul regard, et elle le demande. Et donc, je vais faire pareil. Si je vais me centrer sur Jésus, je vais lui dire simplement, regarde-moi, et que je rencontre ton regard. Je découvre comme ton regard est doux et paisible. C'est ce regard-là qui va me faire vivre. Si vous lisez la vie de Saint Silouane de la Tosse, il a rencontré ce regard. La vie de Bernadette, elle a rencontré ce sourire à travers Marie. Et enfin, sa dernière arme, et je m'arrête avec cela, c'est l'amour du prochain. Je souffre, oui, mais est-ce que je souffre bien ? Bien souffrir, c'est aimer Jésus. Bien souffrir, c'est offrir pour d'autres. Offrir à la place d'autres. Ce qu'elle appelle sauver des âmes. Nous ne sauvons personne. Nous ne sauvons rien ni personne, mais nous pouvons nous associer dans la pauvre offrande de nous-mêmes à l'offrande de Jésus qui sauve le monde. Jésus est venu non pas pour condamner, pour châtier, pour juger, mais pour sauver. Et il ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Et je peux m'associer à ce mystère de participation quand je suis dans l'épreuve, quand je n'en peux plus. Ainsi, dans son billet de profession perpétuelle, Thérèse demande à Jésus la paix et aussi l'amour infini, sans limite autre que toi, et enfin, la grâce de sauver beaucoup d'âmes, surtout les âmes d'apôtres. Ne perds aucune des épines que tu rencontres tous les jours. Avec une d'elles, tu peux sauver une âme. Et je conclurai avec cet écrit de Thérèse. Jésus a souffert avec tristesse. Sans tristesse, est-ce que l'âme souffrirait ? Et nous voudrions souffrir généreusement, grandement. Quelle illusion ! Nous voudrions ne jamais tomber ? Qu'importe, mon Jésus, si je tombe à chaque instant, je vois par là ma faiblesse. Et c'est pour moi un grand gain. Vous voyez par là ce que je puis faire, et maintenant vous serez plus tenté de me porter dans vos bras. Alors je ne vais pas m'inquiéter. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. C'est important ça. Je ne puis croire que vous m'abandonniez. Aimons-le assez pour souffrir pour lui tout ce qu'il voudra, même les peines de l'âme, les aridités, les angoisses, les froideurs apparentes. Ah, c'est là un grand amour d'aimer Jésus sans sentir, c'est-à-dire sans expérimenter, la douceur de cet amour. C'est là un martyr. C'est le martyr que Thérèse a vécu, et de cet amour vient son rayonnement. Nous pouvons, à notre mesure, petite mesure, mettre nos pas dans les siens à la suite de Jésus.